Morning Edition from NPR News.
Let's see things on people housing.
France Inter, le 18-20.
Une est restée, l'autre a quitté Kaboul et leur destin croisé, c'est le récit de plus de 3 mois de talibans en Afghanistan. Nous vous avons promis de prendre des nouvelles régulièrement de Raa et de Marwa dans leur nouvelle vie, elles et d'autres aussi qu'on suit dans leur quotidien chamboulé. On y vient dans une toute petite minute. Le bruit du monde ce soir est au Portugal qui, pendant que nous discutons péniblement de légaliser le cannabis, lui a légalisé toutes les drogues. Pour quel résultat? Eh bien, nous le verrons ensemble. Le bruit du monde de la suite. Sous les radars, Adrien Toffolé a trouvé des agriculteurs chinois si petits face aux JO d'hiver, des hockeyeurs au maillot drôlement floqués en Russie et des animaux plutôt contents en Côte d'Ivoire. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four. Ou encore une fois, face à Omicron, les Européens se défendent en ordre dispersé. Mais est-ce que c'est vraiment si grave? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Je vous le disais, on se le redira vraiment à chaque fois dans Un jour dans le monde. On a promis de ne pas lâcher les destins de ces jeunes filles dont la vie a été bouleversée par l'arrivée des talibans à Kaboul. Et cette promesse, nous la tenons aussi souvent que possible grâce aux témoignages, grâce aux notes vocales qu'elle vous envoie. Caroline Gillet, bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Avec vous, nous suivons Raa qui est restée à Kaboul. Nous suivons Marwan qui, elle, a pu s'enfuir. Et avant de les entendre, je voudrais saluer qui est avec nous ce soir également, Victoria Fontan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez et vous êtes toujours Victoria Fontan, la vice-présidente de l'université américaine de Kaboul, et vous allez nous raconter ce que deviennent les jeunes filles, les jeunes gens aussi qui étudiaient auprès de vous. Rapidement et en guise d'introduction, Victoria Fontan, combien de vos élèves ont pu quitter l'Afghanistan? De combien êtes-vous sans nouvelles au moment où on se parle?
Alors à peu près 450 ont quitté l'Afghanistan. Nous sommes sans nouvelles de nombreux étudiants qui n'ont pas pu s'enregistrer pour ce trimestre d'automne. Et de plus en plus, certains perdent le fil et vraiment on perd la trace de plus en plus de nos étudiants, toujours à Kaboul.
Et on y viendra évidemment. Celles qui et ceux qui ont pu s'enfuir et qui sont vraiment répartis aux quatre coins du monde, vous les suivez toujours. Et les cours continuent, c'est important de le dire, c'est parfois un peu chaotique, mais les cours continuent pour tous ces jeunes gens.
Absolument, nous allons boucler le 25 décembre le trimestre de l'automne et avec une participation record et assidue de nos étudiants partout dans le monde.
Vous allez écouter avec nous les témoignages de Raa et ceux de Marwan dans un instant, Victoria Fontan. Vous allez voir d'ailleurs peut-être une petite surprise pour vous à la fin, parce que peut-être qu'elles ne vous sont pas totalement inconnues, ces jeunes femmes. Caroline, prenons des nouvelles de Raa. D'abord, c'est celle qu'on a croisée déjà la dernière fois, deux fois déjà. Mmh. Et je me souviens très bien, la dernière fois qu'on s'est croisée ici même dans Un jour dans le monde, elle était à la banque pour tenter de toucher son salaire. C'est elle qui tient la famille tout
aujourd'hui,
en essayant, toujours, sept frères et sœurs, en essayant de garder du temps pour elle quand même.
Oui, et aussi pour essayer de temps en temps de se changer les idées. C'est difficile sans sortir de chez soi. Alors pour Raa, ce qui marche, c'est la musique. Il y a un an, elle avait réussi à convaincre son père de lui laisser apprendre la guitare. Elle dit de ce père qu'il est traditionnel et religieux, que c'est donc difficile. Dernièrement, elle a attendu un jour où il n'était pas là pour tenter de se remettre à jouer. Et voilà ce qu'elle m'a envoyé.
Hi, today I'm taking
Coucou. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir ma guitare de là où je l'ai cachée. Ça fait plus de 3 mois que je ne l'ai pas sortie. J'avais mis des vêtements sur la guitare pour que personne ne puisse la voir. Je la sors. On avait un institut de musique ici. C'était mon rêve d'y aller et de suivre les cours là-bas. Mais quand les talibans sont arrivés, ils ont pris le contrôle de cette école et j'ai entendu qu'ils avaient cassé les instruments. Voilà, elle est là.
Oh. Non. Non, 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 non.
Elle est cassée. On a dû quitter notre maison en urgence quand les talibans sont venus chez nous. J'ai dû l'abîmer. Je l'avais prise, je l'avais cachée, je n'avais pas vu. Je ne sais pas si je peux l'emporter chez mon prof pour la réparer. Ah là là, je suis si triste.
This is so bad and very sad.
Non,
Là, on entend Raa qui chante, du coup, sans guitare. Elle a envoyé des photos de cette guitare, effectivement, une des cordes est cassée, et elle sait évidemment pas où en trouver une nouvelle. Elle a appris entre-temps que ce professeur dont elle parlait était parti en exil. Et ce qui est fou, c'est que depuis, les États-Unis lui a proposé qu'elle aille prendre une guitare chez lui, à Kaboul, là où il les a cachés avant de fuir. Mais le problème reste le même. Comment traverser la ville avec un instrument de musique alors que les checkpoints des talibans sont partout?
Et c'est déchirant de l'entendre découvrir que, effectivement, les cordes sont cassées. On va la retrouver dans le silence, Raa, Caroline, parce que l'électricité a été coupée.
Can you hear the silence?
Est-ce que tu entends le silence?
This is how...
C'est ça qu'on entend quand il y a des coupures d'électricité.
We don't have access to water.
On n'a plus accès à l'eau, aux machines à laver,
our washing machines,
au frigo.
Our refrigerator. We can watch TV.
On ne peut pas regarder la télé pour savoir ce qui se passe autour de nous.
I can use my laptop.
Je ne peux pas utiliser mon ordinateur. Je peux même pas lire de livre. Mon téléphone est déchargé. J'espère qu'il va pas s'éteindre pendant que j'enregistre ce message. Les talibans se sont battus depuis plus de 20 ans pour avoir le pouvoir. Et maintenant qu'ils l'ont, ils savent pas quoi faire. Il faut qu'ils arrêtent de s'inquiéter seulement des vêtements des femmes, de leur droit au travail, de leur droit tout court. Il n'y a pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'argent, pas de salaire, pas de travail. Il n'y a rien.
There's no hope.
Et il n'y a pas d'espoir.
When will this finish?
Quand est-ce que ça va finir?
Caroline, pas de nouvelles de Raa après ce message pendant plusieurs jours.
Non, des jours entiers pour elle sans travailler. Et avec un grand sentiment de vulnérabilité, il fait noir, il fait trop calme. Elle me dit qu'elle a peur et puis enfin, je reçois ça.
Hi Caroline, how are
Hello Caroline, comment tu vas? Nous, ça fait deux jours qu'on n'avait plus d'électricité. Et enfin, heureusement, elle est revenue. Je me sens si bien. Enfin, je suis de retour dans ma vie moderne, tu vois. J'ai chargé mon téléphone, mon ordinateur, ma batterie portable. On nettoie la maison, on fait des lessives. Les enfants regardent la télé. Je suis tellement soulagée et heureuse.
Il faut rappeler que ces jeunes femmes vous envoient des notes vocales avec leur téléphone, Caroline, donc avec vraiment les moyens du bord, mais elles le font très régulièrement. Moi, j'adore quand elles vous disent « Salut Caroline ouais. !» et que vraiment, il y a quelque chose qui s'est produit entre vous. Victoria Fontan, moi, je voudrais savoir ce que vous ressentez quand vous entendez une jeune fille comme Raa.
Je ressens beaucoup de tristesse. J'entends qu'elle dit qu'elle n'a plus d'espoir. Et puis après, quand l'électricité revient, elle a un regain d'espoir et ça me fait plaisir pour elle. Mais je pense à elle au jour le jour et à tous nos étudiants qui vivent ce calvaire.
Et ce qui est fou et ce qui est très touchant quand on l'écoute, on le verra d'ailleurs avec Marwa également, mais je suis sûre que c'est ce que vous entendez aussi chez vos étudiantes, c'est que on a l'impression qu'elle refuse de se plaindre et que si à un moment elle a montré une faiblesse, il faut absolument derrière dire non mais en fait, tout va bien. Il y a quelque chose qui interdit de craquer quand même chez elle, non Victoria?
C'est ça absolument. Et ce que l'on voit chez beaucoup, c'est qu'ils ne craquent pas avant de partir d'Afghanistan, mais une fois qu'ils sont en exil quelque part, là, ils prennent la mesure de ce qui se passe. Et c'est vraiment le moment où la santé mentale commence à en prendre un coup.
Le rêve de Raa, c'était que les cours puissent continuer, qu'elle puisse continuer à étudier, qu'elle puisse au moins avoir ce fil qui la retient. J'imagine que c'est la raison pour laquelle vous avez tenté pour ceux et celles qui sont encore à Kaboul, et réussi pour ceux qui sont à l'extérieur, de garder ce fil-là, parce que faire des études et continuer à apprendre, c'est plus que primordial.
Absolument, et pour nous, c'était la seule normalité qu'il pouvait rester. Alors, on continue à enseigner en ligne, et parfois, comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'électricité pendant 2, 3, 4 jours, mais on établit des modules d'enseignement pour à la semaine, et donc, on s'attend à ce que peut-être ils vont être hors couverture, mais on continue de les attendre et on continue à interagir avec eux.
Ça veut dire qu'il y aura un diplôme à la fin, et c'est important ça, Victoria Fontan, malgré ce qui s'est passé au milieu de la scolarité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y aura un diplôme, il sera utilisable, il sera estampillé, il sera officiel et il sera de qualité.
Absolument. Alors officiellement, on est toujours accrédité par le ministère afghan de l'éducation supérieure, bien qu'on n'ait pas le droit d'être en contact avec eux. Mais nous avons aussi fait un partenariat avec Bard College aux États-Unis. Et donc, contre toute attente, ce nouveau diplôme va leur ouvrir des portes partout dans le monde.
Ceux et celles qui sont restés comme Raa, vous disiez tout à l'heure que vous aviez de la peine à savoir évidemment où ils étaient et surtout dans quelles conditions de vie. Ce qui est très difficile, c'est que certains ont dû changer de région, Victoria Fontan, pour vous.
Voilà, alors ils changent de région, ils changent d'appartement peut-être toutes les semaines, parfois tous les soirs. Et comment dire, plus les taux se resserrent et évidemment moins on a de nouvelles. Mm-hmm. Et donc c'est un calvaire quotidien d'essayer de rester en sécurité et surtout de pas se faire attraper par les talibans.
Avec des vraies craintes pour la vie de certains de ces étudiants.
Absolument, et ceux dont on n'a pas de nouvelles, eh bien on se demande parce que les exécutions sommaires ont commencé. Le programme des talibans de pardon en fait a fait des listes de gens à aller chercher chez eux, et donc petit à petit les gens sont en train de se faire arrêter et après on n'a plus de nouvelles d'eux et on ne sait pas ce qui se passe.
Alors arriver à quitter le pays pour beaucoup, c'était une course contre la montre, réellement une vraie difficulté. Caroline, vous allez nous aider à refaire connaissance avec Marwa qui elle a 22 ans et qui a pu fuir le pays.
C'est ça. Marwa, c'est donc une amie et ancienne collègue de Raha qu'on entendait à l'instant. Elle a eu l'occasion de partir grâce à son jeune époux. Ils s'étaient mariés au début de l'été. Ils n'avaient jamais vécu ensemble. Ils se sont retrouvés sur les routes avec un petit sac, deux tenues, deux livres, les documents d'identité et un ordinateur portable. Ils ont passé 2 semaines dans un hôtel proche de la frontière ouzbek au nord du pays, mais surtout proche d'un aéroport international. Et un jour, Marwa m'écrit « Ça y est, on part pour Abu Dhabi ». Après le stress des contrôles de papiers par les Taliban, elle envoie ceci.
On est dans l'air, dans l'avion. Je vois beaucoup de sièges vides dans l'avion, alors qu'il y a des centaines, milliers de personnes qui attendent une évacuation, alors que leurs vies sont en danger. Je ne sais pas trop ce que je ressens. Je suis heureuse qu'on soit en vie, qu'on soit en vol. Je suis excitée par ce qui va arriver et notre quarantaine à Abu Dhabi pour 21 jours. Mais en même temps, on a tout laissé derrière. J'ai appelé mon père, je voulais lui dire qu'on s'apprêtait à embarquer, mais je n'ai pas pu lui parler, pas même pu lui dire un mot parce qu'il pleurait. Et moi aussi. Et ça a été pareil avec mon frère. Ils sont toujours dans cet enfer dans lequel les talibans ont transformé mon pays. J'aimerais toujours l'Afghanistan. Je serai toujours amoureuse de Kaboul, de ses rues, de ma famille. Je ne sais pas quand je vais pouvoir les revoir. Je ne sais pas comment on fait pour supporter cette douleur.
Alors on la laisse un peu en avion, Marwa, Caroline. Le premier message qu'elle vous envoie après, c'est le lendemain de son arrivée à Abu Dhabi. Et là, elle est dans un centre de réfugiés.
Oui, elle est arrivée à la cité humanitaire des Émirats, qui se trouve à Abu Dhabi. Un complexe impressionnant, elle m'a envoyé quelques photos, avec plusieurs immeubles standards séparés par des carrés de pelouse.
On est en sécurité, l'espace est calme, il y a des lits, des salles de bain, ils nous ont fait faire des tests Covid. Et puis on nous a emmenés dans nos chambres, on est au 4e étage, les portes des corridors sont fermées à clé et on peut monter et descendre. Apparemment on va devoir rester ici en quarantaine dans nos chambres pendant 21 jours. Mais les autres réfugiés ici nous disent que ce sera plutôt au moins un mois. C'est le début de la soirée et on a reçu nos dîners qui sont distribués dans des boîtes en carton devant nos portes. Il y a du riz, des légumes frais, du poulet, une bouteille d'eau. Et un morceau de cake. Je pense que c'est de la nourriture indienne. Je ne connais pas du tout ces recettes et j'avais jamais rien mangé de pareil. Mais c'est très bon. Et voilà, c'est notre dîner ce soir.
Victoria Fontan qui suit toujours avec nous les vidras et de Marwa. Je ne suis pas sûre qu'on mesure, je pense que vous le mesurez même mieux que moi avec ces jeunes que vous avez très souvent en ligne, que l'on mesure le choc des cultures que cela représente et l'incertitude incroyable dans lesquelles ces gens baignent depuis maintenant 3 mois.
Absolument. Alors nous avons envoyé 109 étudiants dans le Kurdistan irakien et même là-bas, c'est un choc des cultures incroyable qui se gère au quotidien. Et pour eux, ils réalisent lorsqu'ils arrivent dans leur destination de transit, eh bien que c'est qu'ils savent pas où ils vont atterrir au final et que c'est le début d'une errance qui va durer plusieurs années.
Je ne sais pas comment on fait pour surmonter cette peine-là. C'est les mots que Marwa emploie dans les notes vocales qu'elle envoie à Caroline. y a ce mélange parce que nous pensons bêtement, peut-être comme les Occidentaux, que une fois qu'on est dans l'avion, c'est bon, c'est une délivrance, mais c'est aussi même une autre forme d'enfermement, d'ailleurs, là où ils sont tous, c'est ce qu'on voit avec Marois. Est-ce que vous voyez, j'imagine, aussi avec vos étudiants?
Absolument. Alors les étudiants nous disent aussi qu'ils sont très peinés de savoir que les membres de leur famille sont encore à Kaboul. Mmh. Ils sont en contact avec eux et donc ils ont ce qu'on appelle un petit peu la tristesse du survivant qui se dit voilà, moi je m'en suis sorti, mais eux ils restent dans cet enfer. Et je dirais que les blessures d'âme vraiment commencent à ressurgir quand ils sont dehors de leur pays. Et il faut savoir que personne ne quitte son pays de plein gré. C'est vraiment un exil forcé.
Vous dites d'ailleurs que même aux États-Unis, on peut se dire qu'en général les gens sont plutôt mieux installés, même aux États-Unis c'est extrêmement difficile, peut-être parfois les plus mal lotis.
Absolument, alors au niveau de la nourriture, au niveau des connexions internet, ils se retrouvent dans des grands hangars avec énormément d'autres réfugiés, et quelque part même pour charger son téléphone c'est compliqué, pour suivre les cours en ligne c'est compliqué, et puis ils se retrouvent au bout de quelques mois, et bien avec une assistance de l'État providence totalement désuète par rapport à la vie, au coût de la vie aux États-Unis, et beaucoup se retrouvent bien sûr sans abri.
Elle vous raconte comment elles sont vues d'ailleurs de l'extérieur ou pas? Est-ce que quand elles peuvent sortir, si elles peuvent sortir des lieux dans lesquels elles sont, comment on les regarde, comment on leur parle, est-ce qu'on sait qui elles sont, d'où elles viennent, est-ce qu'il y a une vraie curiosité qui au moins peut-être aide à raconter sa propre histoire?
Oui, alors aux États-Unis, pour l'instant, l'accueil est toujours chaleureux. La population américaine, qui bien sûr a désapprouvé les décisions du président Biden, est très solidaire du peuple afghan. Et donc, au moins, il y a cette chaleur humaine. Mais force est de constater qu'après, ils savent pas ce qui va leur arriver au niveau professionnel et bien sûr au niveau des études une fois qu'ils sortiront pour de bon de ces camps.
Un dernier petit moment avec Ra à Kaboul, avec Marois à Abu Dhabi. Ça fait maintenant 18 semaines, Caroline, que les talibans ont pris le contrôle en Afghanistan. Donc on s'installe dans une espèce de terrible routine. Et Ra fait ce qu'elle peut pour essayer de partir toujours.
Je viens de terminer de travailler. Ça fait plus d'un mois que j'essaie de mon mieux de trouver une façon de partir d'ici. Alors j'ai rempli des applications pour des visas, des bourses de différents pays, mais j'ai pas de résultat. Et là, je suis tellement fatiguée. J'écoute ma musique indienne préférée sur YouTube. J'écoute pour essayer de m'endormir. Parce que je suis inquiète. Je dois trouver des sous pour acheter à manger autant que possible parce que le taux du dollar monte tous les jours. Il fait de plus en plus froid. Je m'inquiète pour ma famille. Je me rends compte de tout ce à quoi mes parents ont fait face pour nous. Maintenant, c'est moi, la mère et le père de la maison. Mais je suis sûre que ça va passer.
C'est son petit moment préféré dans cette musique
indienne. Elle ne comprend pas les paroles, mais elle adore.
Marois, de son côté, Caroline, a participé à l'organisation de son camp de réfugiés comme elle le peut.
Oui, pour elle, pour Marois à Abu Dhabi, ça fait 78 jours qu'elle est dans un camp de réfugiés. Avec les autres dans son couloir, ils ont mis en place des cours d'anglais. Les femmes ont aussi organisé de se rassembler tous les matins pour des cours de gym donnés par une des réfugiées qui était prof de sport à Kaboul. Marois a enregistré un de ses cours, vous entendez la musique. Elles sont toutes regroupées dans ce qu'elle appelle leur salle de gym.
L'endroit qu'on appelle comme ça n'en est pas vraiment un. C'est une de nos chambres. On a juste nos draps de lit qu'on met au sol et on fait les exercices dessus. La majorité des personnes ici n'ont pas de livres, pas de papier, d'ordinateur. Ils s'ennuient, sont stressés, déprimés. Ils se sentent mal. L'autre activité principale ici, c'est de rêver. On rêve d'avoir une maison, de cuisiner, étudier, rejoindre une école. Je m'imagine souvent en train d'aller travailler et ça me fait trop du bien. On n'avait pas l'occasion d'aller au cinéma à Kaboul. J'espère pouvoir y aller un jour, peut-être dans un an, dans 6 mois. Je ne sais pas. Et aussi, je voudrais m'amuser, être heureuse et rire. Rire tellement. Et peut-être même rire aux éclats.
Elles sont vraiment magnifiques, Caroline Gillet. Merci beaucoup. Victoria Fontan, est-ce qu'il y aura d'autres évacuations, d'autres possibilités pour vos étudiants et étudiantes à vous ?
Oui, nous venons de signer un accord avec le gouvernement du Qatar et donc nous allons pouvoir sortir 200 étudiants sur 2 ans et donc le premier avion va, je l'espère, partir bientôt au mois de janvier.
Parce qu'on l'entend notamment dans ce que dira, il faut rappeler ce chiffre-là, hein, c'est un chiffre officiel, 97% de la population en Afghanistan vit ou est en passe de vivre au-dessous du seuil de pauvreté. C'est à ça que ça ressemble, Victoria, l'Afghanistan d'aujourd'hui.
Absolument, et c'est terrible de se dire qu'un pays qui commençait à se développer, ben redevient une urgence humanitaire, et donc merci de pas les oublier.
Et vous savez quoi, Victoria Fontan, elles vous connaissent, Ra et Marwa, en tout cas elles vous l'ont dit parce que vous avez envoyé un message.
Je leur ai annoncé qu'elles seraient, elles nous écoutent là, je leur ai annoncé qu'on serait en direct tous ensemble, et je leur ai dit qu'ils seraient en face d'elles, et elles vous connaissent, et puis elles ont eu beaucoup d'amis qui étaient à l'université américaine de Kaboul, et elles vous disent un grand merci pour le travail que vous faites. Et moi je me demandais, est-ce qu'elles peuvent s'inscrire, elles peut-être pour la rentrée prochaine.
Absolument. Alors, déjà, je suis très émue. Et puis, absolument. Donc, nous allons prendre 100 étudiants à partir du mois de janvier. Et en septembre prochain, nous allons ouvrir nos admissions à tous les étudiants qui n'avaient pas encore été admis. Donc, elles peuvent postuler et puis qu'elles se mettent en contact. Et je leur montrerai la voie avec plaisir.
Et ben, elles seront ravies, en tout cas. Et vous ferez le chemin, Caroline, pour nous. Victoria Fontan, je vous remercie vraiment beaucoup, vice-présidente de l'Université américaine à Kaboul. Et nous, ce qu'on peut promettre à Un jour dans le monde, c'est de continuer à prendre des nouvelles le plus régulièrement possible grâce à vous, Caroline, de Ra et de Marwa et aussi d'autres. Ouais, merci, merci vraiment.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, alors qu'on débat mollement sur la dépénalisation du cannabis en France, le Portugal, lui, a dépénalisé toutes les drogues en 2001. Où en est-il aujourd'hui ? Eh bien, vous le verrez, c'est le bruit du monde. Et puis la troupe qui vous accompagne jusqu'à 19h sous les radars, Adrien Toffolem.
On va parler d'un match de hockey sur glace qui a eu lieu dimanche entre la Finlande et la Russie. Sauf que les Finlandais n'ont pas très très apprécié de lire URSS sur le maillot de leurs adversaires.
Allez, le monde d'après, Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Face au variant Omicron, les 27 Européens avancent à nouveau en ordre dispersé. On va se demander si cette cacophonie est un problème ou pas.
Allez, à tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète continue. Il croise la route de Curtis Harding, qui ne peut pas se cacher. Can't Hide It, c'est dans la playlist de France Inter et c'est dans Un jour dans le monde. Le bruit du monde ce soir est au Portugal, où on a dépassé très largement la dépénalisation du cannabis qui nous agite ici. Le Portugal est l'un des rares pays européens à s'être lancé, voilà plus de 20 ans, dans une politique de dépénalisation de l'ensemble des drogues. L'héroïne, à l'époque, y faisait de terribles ravages. Depuis, les choses ont bien changé et le reste, c'est Anne Mignard qui raconte.
Comme tous les matins, avant d'aller travailler, Daniel attend au milieu d'un groupe d'hommes qui ne sont plus que des ombres l'arrivée du camion de l'association Arès d'Opinial. À bord, un médecin, un infirmier et un psychologue qui assure la distribution de méthadone.
Si vous prenez ça, vous n'avez pas besoin de prendre de l'héroïne ou autre chose, donc vous pouvez sortir de l'addiction. Mais ça doit être par votre propre volonté. Si vous n'avez pas votre propre volonté, vous êtes mort de toute façon. Ils vous accompagnent jusqu'au bout, ils veulent vraiment vous aider à vous sortir de l'addiction à la drogue. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut faire.
Cela fait déjà plusieurs années que Daniel, la vingtaine, fume de l'héroïne. Il y a quelques mois, il a croisé le chemin de cette association et depuis a retrouvé un emploi, un domicile et un espoir, comme il dit. Une aide et une prise en charge qui découlent de la loi du 29 novembre 2000 sur la dépénalisation des drogues. Depuis, les consommateurs ne sont plus vus et traités comme des délinquants, mais comme des malades. Ils ne risquent plus la prison, mais lors de contrôles policiers, ils peuvent être envoyés devant une commission de dissuasion de la toxicomanie. Des travailleurs sociaux, des professionnels de santé et des juristes qui, comme Nadia Simoes, évaluent leur situation.
S'il n'y a pas de risque avéré de dépendance, comme pour un consommateur occasionnel de cannabis, nous l'informons des conséquences pour sa santé et nous prononçons un rappel à la loi. S'il récidive, il écope d'une sanction administrative, des amendes, des présentations périodiques, des travaux d'intérêt généraux. S'il s'agit d'une personne dépendante à la drogue, là, nous l'aiguillons vers les services de santé. Au Portugal, il existe tout un réseau national qui fournit des traitements gratuitement. En général, les consommateurs sont assez réceptifs.
Mais si les personnes arrêtées détiennent une quantité de drogue supérieure à une consommation personnelle, elles sont conduites au tribunal et risquent de 4 à 12 ans de prison pour trafic. Une distinction entre revendeurs et consommateurs importante pour Andrea Alves de l'association Crush Sier. Elle facilite l'approche et l'accompagnement des toxicomanes.
Je pense que la décriminalisation de la consommation de substances en 2001 a été très importante en raison de la mise en place de tout un ensemble de réponses sanitaires sur le terrain, dans la rue, le programme d'échange de seringues, la distribution de méthadone, les prises en charge gratuites par des unités de thérapie, un ensemble de réponses qui font en sorte que les personnes qui ont besoin d'aide la trouvent facilement alors qu'ils sont en train de consommer.
Et du coup, la consommation dégringole. Il y a 20 ans, au Portugal, on comptait 1 million d'accros à l'héroïne. Aujourd'hui, ils sont moins de 500 000. Les consommations de drogues illicites dans ce pays sont aussi actuellement en deçà de la moyenne européenne. Quant à la proportion d'adolescents précocement initiés au cannabis, elle est deux fois moins importante que celle observée en France. De bons résultats qui permettent aussi à l'État de faire des économies, explique Andrea.
Nous, on échange les seringues, ce qui signifie que très probablement la personne ne se fera pas d'injection avec une seringue qui a déjà servi. En fournissant des seringues, nous évitons que la personne n'attrape le virus du VIH et du coup, nous n'avons pas à payer le traitement contre cette maladie.
De sacrées économies quand on sait qu'une trithérapie coûte en moyenne 1 000 à 1 500 euros par mois. Du côté des autorités policières, Arthur Vaz, le directeur de l'unité de police judiciaire dédiée à la lutte contre le trafic de drogue, est lui aussi satisfait.
Ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine façon, avec la nouvelle législation, on a pu libérer un peu plus le travail de la police vis-à-vis des investigations sur le trafic proprement dit. Ça nous a permis de nous concentrer davantage sur le trafic. Jusque-là, évidemment, on devait répartir nos moyens pour lutter à la fois contre la consommation et le trafic. C'est évident, si la consommation n'est plus un crime, la police doit se concentrer sur le trafic.
Et les statistiques de saisie en témoignent. Des résultats probants qui, pour le commissaire Rui Cruz de la police de la sécurité publique, sont le fruit d'une véritable politique globale.
On me demande souvent si je pense que ce système de décriminalisation fonctionnerait dans n'importe quel pays. Je n'en sais rien. Les réalités, les cultures, les contextes sociétaux sont différents. Je peux juste dire que pour avancer avec un tel projet, il faut une grande discussion publique avec les autorités compétentes et adopter une politique pas à pas. Avant, on pensait que le Portugal allait être un paradis pour le narcotourisme et pour les consommateurs de drogue, mais ce n'est pas le cas. Les sceptiques se sont finalement ravisés et les institutions internationales compétentes ont affirmé que c'était un succès.
Voilà pourquoi tant de délégations étrangères se rendent aujourd'hui sur place pour étudier le cas portugais.
Anne Mignard pour le reportage au Portugal. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale qui passe sous les radars. Et c'est Adrien Toffolet. Et Adrien, vous nous emmenez d'abord en Chine sur les traces du rouleau compresseur des JO d'hiver qui vont se dérouler en février prochain.
Des traces qui nous mènent à la campagne auprès des paysans qui répètent inlassablement de génération en génération les mêmes gestes pour travailler à la main la terre. Nous sommes à Wangjiao, à environ 200 km de Pékin, où ces gestes sont abandonnés par certains à contre-cœur. Ces derniers mois, dernières années, une partie des agriculteurs a vu ses parcelles réquisitionnées, louées pour une durée de 25 ans à la State Power Investment Group, une des plus grandes compagnies d'électricité du pays. À la place, de véritables champs de panneaux solaires sont construits à perte de vue, en plaine comme en montagne, des éoliennes aussi en bordure de villages. C'est la révolution verte à marche forcée lancée par la Chine, avec un objectif dans le viseur par les autorités, des JO d'hiver écolo. Ils auront lieu donc du 4 au 20 février prochain, les premiers jeux entièrement alimentés par des énergies renouvelables, et gare à ceux qui se mettront en travers du chemin. Celui qu'on entend, c'est Pi, un paysan qui ne cache pas sa colère. Il raconte qu'il a été emmené dans un tribunal avec d'autres agriculteurs et qu'on les a menacés pour qu'ils signent un contrat de location de leur terre. « Ne dites rien ou vous serez emprisonné », lui a-t-on lancé. Pi dit avoir fait 40 jours de prison, d'autres ont été frappés par la police, d'autres encore ont cédé. Ils reçoivent un dédommagement financier, mais qui est deux fois moins important que leurs recettes habituelles. Des panneaux solaires doivent aussi, en théorie, être installés sur les toits dans les villages concernés, avec électricité gratuite à la clé. Sur les 300 maisons du village de Pi, seules deux ont été équipées.
On reste un instant dans l'esprit JO, enfin si l'on peut dire, JO d'hiver en tout cas, avec du hockey sur glace.
Et un match qui fait polémique, la Russie était opposée à la Finlande dimanche à Moscou dans le cadre de l'Euro de hockey, deux nations reines dans la discipline. Victoire des Finlandais qui ont peut-être trouvé la rage de gagner en voyant les Russes entrer sur la glace. Sur leurs épaules, un maillot floqué CCCP ou en français Fabienne.
URSS.
Ils ont porté les couleurs, le maillot de la grande équipe russe de hockey pendant la guerre froide, surnommée la Machine Rouge. 19 titres de champion du monde entre 1954 et 1991. 8 titres olympiques, voilà le CV. Alors ce choix de maillot n'a rien à voir avec le 30e anniversaire de la dissolution de l'URSS. Aujourd'hui même, la Fédération de hockey russe assure qu'il ne s'agit que d'un hommage à la première médaille olympique gagnée par le pays il y a 75 ans. Explication qui n'a pas convaincu. Vague d'indignation sur les réseaux sociaux finlandais. L'ancien Premier ministre finlandais, notamment Alexander Stubb, a fait part de sa surprise dans une petite salve de tweets. Extrait, cette combinaison de lettres et le régime derrière symbolise l'impérialisme autoritaire qui a tué des millions de personnes innocentes. Et dans le contexte actuel de tension avec l'Occident, autour de l'Ukraine, la symbolique est particulièrement forte.
Et on termine, Adrien, comme hier, avec des animaux. Faudra pas que ça devienne une habitude.
Non.
Mais cette fois, des animaux que l'on protège. Nous partons pour la Côte d'Ivoire.
Un triangle de 19 hectares de nature en plein cœur de la capitale Abidjan. C'est là que se trouve le zoo national, créé en 1972, mais obligé de fermer il y a un peu plus d'un an, après une série d'incidents, en particulier la fuite d'un animal.
Mais tirez sur lui ! Il fait le toin ! Il est dans l'autre sens là-bas ! Seigneur Jésus !
Des cris de peur d'habitants de la ville à la vue d'une hyène courant dans une résidence au milieu de voitures et de gens qui prennent la fuite. Je vous rassure, l'animal a été capturé sans faire de blessés. Il se trouve depuis des années, le zoo fait l'objet de signalements pour maltraitance, manque de nourriture, manque de soins, équipement vétuste. Résultat, fermeture par les autorités en septembre donc de 2020. Directeur du zoo limogé, 800 000 euros d'investissement pour un grand lifting. Les Milans noirs, par exemple, des rapaces, sont dans de grands espaces pour voler désormais. Les 350 animaux mangent à leur faim. Inauguration hier, réouverture aujourd'hui. Le gouvernement en attend beaucoup que ce lieu de préservation devienne un incontournable d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire.
Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Adrien. À demain, bien sûr, dans Un jour dans le monde. Vous partez avec Betty Swann. Then you can call me goodbye. Tell me goodbye, pardon, sur France Inter. Allez, à tout de suite.
Kiss me each morning for a million years. Hold me each evening by your side. Tell me you love me for a million years. Then if it don't work out, then if it don't work out, then you can tell me goodbye. Sweeten my coffee with a morning kiss. Soften my dreams with your sigh. Mm-hmm. And after you've loved me for a million years, then if it don't work out, then if it don't work out, tell me goodbye. If you must go, baby, I won't grieve, but just wait a lifetime before you leave. Mm-hmm. Then if you must go, I won't tell you no, 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 but just so that we can say we tried. Oh, baby, tell me you love me for a million years. Then if it don't work,
Can Tell Me Goodbye, Betty Swann sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, au moment où le gouvernement accélère l'examen du futur pass vaccinal avec l'annonce d'un conseil des ministres exceptionnel qui aura lieu lundi prochain, les mesures de restriction se propagent en Europe avec de nouvelles annonces hier en Catalogne, peut-être demain la Belgique. Tout ça donne une nouvelle fois l'impression d'un manque de coordination européen. Mais pour vous, ce n'est pas nécessairement un problème, mais c'est votre monde d'après.
Oui, une grosse frayeur avec l'arrivée d'Omicron et voici la cacophonie de retour. Si vous aimez les patchwork illisibles, alors vous êtes servi. Question restriction pour lutter contre la pandémie. Pas un seul des 27 Européens ne fait comme son voisin. Alors il y a d'abord les adeptes du pass vaccinal. Donc seul le vaccin donne accès aux lieux publics. Un test négatif ne suffit plus. En Autriche, en Grèce, dans les pays baltes. Parfois c'est pour tout le monde, l'Autriche. Parfois c'est uniquement pour les plus de 60 ans, la Grèce. En Allemagne, comme en Autriche, la nouvelle coalition semble tentée par l'obligation vaccinale. Pourtant un tabou jusqu'à présent outre-Rhin. Et la France s'interroge également. Deuxième école, le retour du confinement, les Pays-Bas, avec l'annonce avant-hier du Premier ministre Mark Rutte, fermeture pour 3 semaines de tous les commerces non essentiels. Petite variante au Danemark, seuls les lieux de culture sont fermés pour l'instant. Troisième école, le retour du couvre-feu. À l'œuvre à des degrés divers en Roumanie, en République tchèque ou en Irlande. Fermeture des pubs à 20h. Et puis, il y a les pays où les restrictions varient selon les régions. L'Italie, l'Espagne ou donc la Catalogne fait bande à part depuis hier avec des limitations strictes. Pas de réunion de plus de 10 personnes. Bref, vous avez compris. Si vous devez voyager ailleurs en Europe, renseignez-vous avant de partir sur les règles en vigueur en place. Une chatte n'y reconnaîtrait pas ses petits, comme on dit.
Mais donc, vous dites que cette cacophonie, c'est pas un souci?
C'est pas forcément un souci. D'abord, c'est tout simplement le reflet de situations sanitaires qui ne sont pas tout à fait les mêmes d'un pays à l'autre. La hausse des cas est impressionnante au Royaume-Uni, forte aux Pays-Bas ou au Danemark, et le variant Omicron arrive en force en région parisienne. Mais la hausse est plus modérée en Espagne ou au Portugal, très faible en Suède, et les chiffres de contamination sont même en recul en Grèce. Donc il est logique de voir les différents gouvernements adopter, pour l'instant, des stratégies différentes. Ensuite, il y aurait en fait un risque à voir Bruxelles imposer d'en haut des restrictions généralisées. Le risque d'un effet boomerang, contre-productif, remobiliser les anti-vaccins, qui sont certes bruyants médiatiquement, parfois violent, mais très minoritaire avec des rassemblements finalement de petite taille. C'est ce qu'explique Andrea Hamon qui dirige le Centre européen de prévention des maladies. Et puis cette situation de patchwork est tout simplement le reflet du monde réel, c'est-à-dire une Union européenne qui demeure une instance plus économique que politique, avec des pays qui ont par exemple un rapport variable à la question des libertés publiques. Sur le sujet, les Scandinaves sont plus tatillons que les Latins. Soit dit en passant, le bon échelon pour lutter contre la pandémie est souvent, on l'a constaté, le niveau régional plutôt que le niveau national, voire supranational, parce que dans un même pays, tout simplement, il y a de gros écarts d'une région à l'autre.
Mais alors, il y a quand même un besoin de coordination européenne, non? Vous n'allez pas nous dire le contraire?
Non, évidemment que je ne vais pas vous dire le contraire, mais cela dit, il y a quand même eu aussi des progrès indéniable depuis 2 ans. Le plus spectaculaire, le plus parlant, c'est la capacité de l'Union européenne à opérer des commandes groupées de vaccins. Après des ratés au démarrage, le système est désormais rodé. 1 milliard de doses livrées au total en Europe et la garantie désormais que tout le monde puisse avoir une troisième dose. Il y a aussi l'essor d'une Europe de la santé avec une vraie volonté de Bruxelles. Avec une nouvelle avancée hier, le Conseil européen est tombé d'accord pour doter l'agence ERA de moyens d'action renforcés. ERA, c'est l'organisme, vous savez, chargé de faire face aux problèmes sanitaires d'urgence. Dès 2023, en cas de nécessité, cette autorité pourra acheter des médicaments, des équipements médicaux ou financer des sites de production de vaccins pour aider les pays membres. Bon, cela dit, il y a encore des couacs sur la coordination de la gestion des frontières intérieures en Europe. Le dernier couac en date la semaine dernière, lorsque l'Italie, pourtant un bon élève européen, a soudainement décidé d'imposer des tests à tout voyageur européen, même vacciné, arrivant sur son sol, le tout sans en avoir prévenu personne au préalable. Plusieurs dirigeants européens l'ont assez mal pris, on le comprend, d'autant que d'autres pays, le Portugal, la Grèce, l'Irlande, ont la même idée que l'Italie. Bref, ça avance, mais il y a encore du boulot.
Et oui, comme souvent, le monde d'après de Jean-Marc Four, merci beaucoup, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Bien sûr, on se retrouve demain. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, ne changez rien, on revient tout de suite.